Génération, conçue et réalisée par les jeunes de plus de 60 ans de Haute-Garonne.
Bonjour à tous. C'est une émission Génération bien particulière que nous vous proposons ce mois-ci. En effet, alors que l'organisation et les thèmes étaient bouclés, le confinement dû au coronavirus a obligé l'équipe de Génération, comme tout le monde, à s'adapter. Et du coup, chacun a enregistré chez soi, avec ses moyens du bord, les différentes parties. Ceci, évidemment, a remplacé notre rendez-vous mensuel collectif, joyeux, dans les locaux de la radio de la Save. Merci donc à Jeg, Annick, Josie, Margaret et Christiane pour cet exploit qui, nous l'espérons, recevra votre bienveillante écoute. Merci à vous, bonne émission. Donc aujourd'hui, nous vous proposons une émission spéciale dédicace aux femmes, puisque tel est le mois du printemps, de la poésie et des droits internationaux des femmes. Au sommaire, pour une heure, de la poésie, des réflexions croisées sur l'évolution de la femme, une présentation de la très exceptionnelle Alexandra David-Neil, l'extrait d'un article sur le vieillissement des actrices de Muriel Joulet, des brèves, des astuces, bien sûr, sans manquer la rubrique santé de Josie. Et quant à Margaret, elle nous présentera les musiciens moins connus de la scène toulousaine et son événement à la Halograin, en attendant que celle-ci réouvre prochainement ses portes. Belle journée à tous, portez-vous bien.
Un texte dans ma vie.
Les femmes sont belles. Elles sont belles à 20 ans, 40 ans, 60 ans, 80 ans. La beauté est subjective. Elle appartient à celle qui la reçoit. Elle est personnelle. Pour certains, elle l'est. Pour d'autres, elle ne l'est pas. Et on s'en fiche, puisque la beauté est tellement plus profonde qu'une apparence. La beauté, c'est être touché, émerveillé, bousculé par un être.
La beauté, c'est être touché, émerveillé, bousculé par un être. Toutes les femmes sont belles parce qu'elles sont grandes, puissantes, déterminées, courageuses, sensibles, dures, résistantes, battantes. Cette force, c'est ce qui leur donne cette très grande beauté.
Elles sont belles quand elles assument leur choix malgré les clichés, malgré les critiques, malgré l'immense bêtise humaine. Elles sont belles quand elles sont hétéros, homo, mariées, paxées, célibataires. Elles sont belles quand elles ont des enfants et aussi quand elles n'en ont pas.
Elles sont belles quand elles travaillent, quand elles sont femmes au foyer, quand elles sont au chômage. Elles sont belles quand elles se maquillent ou quand elles ont des cernes dès le matin. Elles sont belles en jupe, en pantalon, quand elles portent un hijab, un tailleur de luxe ou un jogging.
Elles sont belles nues sous la douche, qu'elles soient fines, qu'elles soient grosses, qu'elles se teignent ou laissent exister les cheveux blancs. Elles sont belles qu'elles aient des bourrelets, de la cellulite, des seins qui tombent ou des implants en silicone.
Elles sont belles quand elles ont leurs règles, quand elles doivent être discrètes, car ça reste tabou, alors que l'être humain existe grâce à ce sang. Elles sont belles quand elles vont à l'école, et aussi quand on les prive d'éducation, et qu'elles apprennent à lire et se cultivent en secret.
Elles sont belles quand elles cachent les coups qu'on leur assène. Elles sont belles quand elles ont fondé un foyer, ou qu'elles sont seules dans la rue.
Elles sont belles quand elles sont en pleine santé, et aussi quand elles n'ont plus sourcils ni cheveux, et qu'elles se battent contre la maladie.
Elles sont belles quand elles choisissent l'être à aimer ou qu'on leur impose. Elles sont belles même si on les mutile, même si on les excise.
Elles sont belles malgré les larmes et le chagrin qu'elles traversent trop souvent. Les femmes sont belles quand elles ont le bonheur de vieillir avec leurs rides d'expression et leur ménopause.
Elles sont belles quand elles sont plus âgées que l'homme qu'elles aiment et qu'elles subissent des attaques car, dans ce monde, ce sont les hommes qui ont droit à des partenaires plus jeunes. Elles sont belles même quand on les traite de vieilles, de cougars.
Elles sont belles quand elles aiment, quand elles sont sincères, quand elles rendent une personne heureuse et réciproquement. Les femmes sont belles par leur dignité, par leur combat pour exister, pour être entendues, pour être respectées, pour que leur condition soit égale à celle des hommes.
Les femmes sont belles à 20 ans, 40 ans, 60 ans, 80 ans. Heureusement, nombreux sont ceux qui le pensent. Et alors, cela, clamez-le haut et fort. Toutes les femmes sont belles.
Aujourd'hui, je suis avec Josie et Margaret. Nous aimerions entamer une discussion sur la femme dans un monde d'hommes. Alors, c'est quoi la place de la femme aujourd'hui dans ce monde ? Jadis, souvent, la femme restait chez elle pour s'occuper du foyer et de la famille, et le mari se chargeait de gagner l'argent nécessaire. Aujourd'hui, aux États-Unis, une profession existe, dite « homemaker » ou « personne au foyer ». Alors qu'en France, cette personne, femme ou foyer, c'est forcément une femme. Et aux yeux de la société, elle est sans profession. Son travail n'est pas reconnu. Oui, bien sûr, aujourd'hui, les deux parents s'occupent de plus en plus de leurs enfants. On a un peu touché au sujet lors de la dernière émission et le sujet est vaste. Qu'est-ce que tu en penses, Josie ?
Effectivement, ça avance bien. Même si cela n'avance pas assez pour certaines et même certaines. On peut être pour ou contre la discrimination positive, puisqu'à mon sens, on donne un poste à quelqu'un qui en est capable, homme ou femme. Mais peut-être dans un premier temps, on a besoin de pousser les gens à trouver tout à fait normal d'être dirigé par quelqu'un qui n'est pas un homme.
Je ne mâche pas mes mots. Je ne mâche pas mes mots. S'il m'arrive d'être foudroyé par l'éclair au chocolat, très souvent je me raisonne avant de replonger mon doigt dans la marmelade aux pommes préparée a cappella sur le piano. Si la seule vue du miel suffit à clarifier ma voix, l'aspartame à sa mémère.
Certains pays, et particulièrement en Scandinavie, ont évolué bien plus vite que nous et ils ont mis en place beaucoup plus tôt des quotas. Recherche d'un équilibre vie professionnelle, vie de famille, congé parental depuis 1974 en Suède, 6 mois payés en Norvège. Création de garderies. On devrait s'inspirer plus de ces pays, même si on a des freins dus à des différences de culture.
Oui, je suis d'accord. Quand mon papa était jeune père de famille, il ne poussait jamais, mais vraiment jamais, le landau ou la poussette dans la rue. Pour lui, c'était un travail de femme, trop efféminé pour un homme. À l'époque, c'était souvent comme ça d'ailleurs. Aujourd'hui, les hommes partagent ce travail avec leurs femmes. D'ailleurs, l'autre jour, j'ai entendu au restaurant deux hommes qui ne se connaissaient pas entamer une discussion sur les avantages et les inconvénients de certaines marques de landau. C'était bien.
Oui, c'est avec l'exemple des parents que la génération suivante pourra aller encore loin, vers une égalité des sexes. Mais les stéréotypes sont si anciens qu'il faut plusieurs générations pour y arriver. C'est vraiment une question d'éducation et ce qu'on a vu à la maison nous influence. On peut imaginer que certains enfants répètent ce qu'ils entendent et ce qu'ils voient à la maison. Mais je pense que la société est influencée partout. Par exemple, combien de magasins de jeux font leur étalage ou sites web en divisant les jouets filles-garçons? Ou rose pour les filles, bleu pour les garçons?
Je ne mâche pas. Je me délecte
faisons partie de générations, regardons l'exemple de la femme au théâtre. J'ai lu qu'à l'Ancien Régime, on trouve déjà des écrits de femmes qui parlent de la lutte pour la liberté des femmes économiquement et socialement. Pas grand-chose a changé, puisque pendant des années 1970, on retrouve ce même mouvement d'idées, mais c'est très lié au mouvement de la libération de la femme, le MLF. Il semble qu'aujourd'hui, le théâtre critique plus les inégalités et les stéréotypes. Au cinéma, il semblerait qu'en 2015, seulement 8% des rôles étaient prévus pour les femmes de plus de 50 ans. Pire, 6% en 2016. Les femmes doivent se contenter souvent du second rôle avec des rôles très souvent stéréotypés. À croire que la femme ne sert plus à grand-chose dans le monde du cinéma après l'âge de 50 ans. Tout ceci n'est pas le cas pour les hommes. Les femmes sont moins bien payées et les décideurs sont majoritairement des hommes, comme partout on dirait.
En effet, trop de personnes croient que le combat féministe est un affrontement entre les hommes et les femmes, alors qu'il s'agit juste d'un combat pour l'égalité des droits. Il est certain que maintenant les femmes peuvent presque tout faire, mais elles doivent quand même se battre 10 fois plus qu'un homme pour être connues. Françoise Giroud a dit « Il y a 30 ans, la femme sera vraiment l'égale de l'homme le jour où à un poste important, on désignera une femme incompétente. » on n'en est malheureusement pas encore arrivé là. Petite pause musicale pour clore ce débat. Balance ton quoi d'Angèle.
Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il se faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes d'une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Allez te faire un moi je passerai bas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Les gens me disent à demi mots. Pour une fille belle t'es pas si bête. Pour une fille drôle t'es pas si laide. Tes parents et ton frère ça aide. Oh tu parles de moi. C'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter. Allez te faire un oui, je serai poli pour la télé. Mais va te faire un balance ton quoi. Peut-être ça changera. Y a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Laisse-moi te chanter. Allez te faire un moi je passerai bas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Laisse-moi te chanter.
De la femme à l'enfant. Nous allons voir dans cette brève, qui traite de l'expression « jeter le bébé avec l'eau du bain », comment l'enfant était également maltraité.
Ayez une pensée émue pour nos ancêtres. Voici quelques faits des années 1500.
pour se baigner, on utilisait une grande cuve remplie d'eau très chaude. Le maître de maison jouissait du privilège d'étraîner l'eau propre, suivait les fils et les autres hommes, faisant partie de la domesticité, puis les femmes et enfin les enfants. Les bébés fermaient la marche. À ce stade, l'eau était devenue si sale qu'il aurait été aisé d'y perdre quelqu'un. D'où l'expression « jeter le bébé avec l'eau du bain ».
Rubrique
« Une femme dans un monde d'hommes ». Et maintenant, place à une femme écrivain, et pas n'importe laquelle. Alexandre David-Niel vit jusqu'à 100 ans et meurt juste avant son anniversaire suivant. Sa vie est riche en rencontres et expériences. Alors, comment parler d'elle? Alexandre David-Niel voit le jour en 1868 à Saint-Mandé, à l'est de Paris. Elle est élevée dans un milieu d'anarchistes entre la France et la Belgique. Elle écrit pour un journal féministe créé par Marguerite Durand et elle s'implique dans diverses causes féminines. Néanmoins, elle préfère poursuivre sa lutte pour la cause économique de la femme plutôt que le droit de vote. D'ailleurs, elle considère qu'un certain nombre de femmes qui se battent pour la cause féminine sont plutôt d'un milieu aisé qui ne comprend pas la vraie lutte des femmes. En 1889, à sa majorité, Alexandre David-Niel se convertit au bouddhisme. Un an plus tard, elle entame des cours de tibétain et de sanskrit. Elle assiste à une cérémonie conduite par un lama mongol proche du 13e Dalai Lama et en présence de Georges Clemenceau. Elle est orientaliste, tibétologue, chanteuse d'opéra, journaliste, anarchiste, exploratrice, franc-maçonne et bouddhiste française. La liste est longue et aujourd'hui, je voudrais me concentrer surtout sur la partie bouddhiste à travers ses écrits. C'est entre 1893 et 1908 que Alexandre David-Niel est ouvertement féministe et elle écrit des articles et des livres liés à ses convictions. En 1904, elle épouse Philippe Niel de Saint-Sauveur, l'homme qui est son amant depuis 4 ans. Elle ne veut pas d'enfant, car elle reconnaît que ce n'est pas compatible avec la vie qu'elle souhaite mener. Leur vie commune cesse après 7 ans, puisque j'imagine que le mariage aussi doit être compliqué pour l'autre si l'un des deux continue les voyages et les études. Ils se séparent 14 ans plus tard. Néanmoins, un échange d'écriture existe entre les deux jusqu'à sa mort à lui en 1941. À partir de 1909, Alexandre David-Niel se concentre sur ses études asiatiques et est reconnue comme érudite. Elle passe beaucoup, mais vraiment beaucoup de temps en Asie et notamment au Tibet. En 1912, elle rencontre le 13e Dalai Lama à Kalimpong en exil et en 1924, elle est la première femme étrangère à entrer dans Lhasa après un voyage difficile de 8 mois. Lhasa, capitale du Tibet, alors interdite aux étrangers. Laissons place à un extrait du livre « Voyage d'une Parisienne à Lhasa » d'Alexandre David-Niel.
Vers le milieu de l'après-midi, nous entendîmes soudain un tintement de clochette. Immédiatement, au-dessus de nous, sur le sentier en lacets, nous aperçûmes un homme corpulent, habillé de façon cossue, suivi par quelques soldats et par des serviteurs conduisant les chevaux. Tous les voyageurs descendaient la montagne à pied. Le gentilhomme s'arrêta, paraissant surpris à notre vue. Yongden et moi, conformément à l'étiquette tibétaine, nous nous précipitâmes vivement sur le bas-côté du chemin pour témoigner de notre respect. Le fonctionnaire avança et s'arrêta de nouveau devant nous, entouré de sa suite. Alors commencèrent les questions habituelles concernant notre pays natal, notre voyage et autres sujets. Et lorsque tout eut été dit et redit, le pompeau demeura sur place, continuant à nous regarder en silence, tous ceux de sa suite l'imitant. Il me semblait que les aiguilles me transperçaient le cerveau, tant la tension de mes nerfs était violente. Ces gens jugeaient-ils notre apparence ou nos réponses suspectes? À quoi réfléchissaient-ils? Ce silence devait être brisé ou quelque chose de mauvais pour nous allait surgir. Comment y parvenir? Ah, j'avais trouvé. De la voix planichard des mendiants tibétains, un peu assourdie par ce qui devait paraître un sentiment de révérence, j'implorais une aumône. Kusho Rinpoche, Jatsula Sorlanang Oknam. Noble sire, fais-nous la charité, s'il vous plaît. Le bruit rompit la concentration des pensées du groupe. Il me sembla sentir une détente physique. Les Tibétains avaient modifié le regard scrutateur. Quelques-uns riaient tout haut. Le brave fonctionnaire tirait une pièce de monnaie de sa bourse et la tendit à mon compagnon. « Mère !» exclama ce dernier, feignant une joie extrême. « Regardez ce que le pompeau nous donne !» Je manifestai ma reconnaissance d'une manière s'ayant à la personnalité que j'avais adoptée, souhaitant très sincèrement d'ailleurs prospérité et longue vie à notre bienfaiteur. Celui-ci me sourit, et moi, délivré de ma frayeur, pour terminer la comédie en vrai style tibétain, je lui fis, avec quelques secrètes gaietés, le plus respectueux des saluts du pays. Je lui tirai la langue.
Alexandre David Niel fréquente de nombreuses personnalités dans le monde bouddhiste. Elle rentre en France en 1925, elle est célèbre, elle fait la une des journaux et le récit de son voyage fera l'objet d'un livre. Elle s'installe à Digne-les-Bains. C'est son pied-à-terre puisqu'elle repart pour l'Asie. À la fin de son livre « Voyage et aventure de l'esprit », nous trouvons un hommage très touchant que lui adresse le Dalai Lama en 1982 à Digne-les-Bains. J'espérais vous faire lire une partie, mais malheureusement il s'agit surtout de questions et de réponses sur le bouddhisme. Donc on va se contenter, sans mal d'ailleurs, de son témoignage sur la place de la femme dans la société tibétaine. Écoutons un extrait de ce livre, le chapitre qui s'intitule « Une occidentale face aux femmes tibétaines ».
En fait, les femmes au Tibet ont toujours joui d'une large mesure d'indépendance. Dans les classes aisées de la population, elles possèdent personnellement des biens qu'elles administrent elles-mêmes. Celles qui sont pauvres peuvent compter sur leur force physique égale au Tibet à celle des hommes pour pouvoir entreprendre sans aide masculine les travaux agricoles ou autres qu'elles doivent effectuer pour assurer leur subsistance. À ce sujet, un fait qui étonne les voyageurs occidentaux qui en sont témoins est de voir des femmes tibétaines prendre la tâche, le portage de lourds fardeaux dont beaucoup d'hommes de nos pays hésiterait à se charger et d'accomplir ainsi de longs trajets. D'autre part, les femmes tibétaines sont aussi sensibles que leurs compatriotes masculins à l'attrait des voyages. Le but, au moins apparemment, de leur longue pérégrination est généralement un pèlerinage à des lieux sanctifiés par la présence de saints ermites contemplatifs, ou par les hauts faits accomplis par les lamas thaumaturges. Toute la riche collection des légendes tibétaines a été pourvue de sites réputés comme lieux où s'est exercée l'activité religieuse ou martiale de ces divers héros. Et les pèlerines se mettent en marche pleines de foi, mais sans recueillement exagéré, car les Tibétains, encore plus les Tibétaines, sont d'humeur joviale et très promptes à donner à tout ce qu'ils entreprennent l'allure d'une partie de plaisir. La femme riche, allant en pèlerinage ou effectuant un voyage quelconque, est généralement accompagnée de son mari ou d'un de ses parents mâles. Plusieurs femmes de chambre, l'escorte et la domesticité, cuisinier, palefrenier, etc. est nombreuse. Tout au long de la route, soit que l'on s'abrite dans une maison particulière, soit que l'on campe sous la tente, la chair est plantureuse. Les hommes l'arrosent littéralement avec des bolets d'alcool. Et les femmes se montrent plus sobres, mais ne dédaignent pas complètement la boisson forte. Toute la troupe est gaie. La dévotion au Tibet ne revêt pas un aspect morose.
Les années passent, mais Alexandre David Niel est toujours impliqué dans le monde bouddhiste, même si elle souffre de plus en plus de rhumatisme articulaire. Un seul et unique film est réalisé pour la télévision pour ses 100 ans par Arnaud Desjardins, qui se souvient de son humour et ses connaissances profondes du bouddhisme. Et pour conclure, Alexandre David Niel meurt à Digne-les-Bains, le chef-lieu du département des Alpes de Haute-Provence, le 8 septembre 1969.
Malade, toi, seul peut me guérir.
J'aimerais vous parler du sport et de l'activité physique. D'ailleurs, quelle est la différence entre les deux? Inclure la pratique d'un sport dans votre vie quotidienne est certainement la meilleure façon de vous assurer une bonne condition physique et une bonne santé pour les années à venir. Tout exercice pratiqué régulièrement est bénéfique pour votre cœur, vos poumons, votre circulation sanguine, vos muscles, votre squelette et votre mental. Ces bienfaits se feront sentir à court et à long terme. La pratique d'une activité physique améliore le rendement de l'organisme et préserve des maladies. Si votre travail n'est pas trop fatigant physiquement, pensez au sport pour vos loisirs. 20 minutes d'exercice énergique, 2 à 3 fois par semaine, c'est l'effort nécessaire pour rester en forme. À mon sens, il y a plusieurs niveaux quand on le pratique. Il y a des gens qui ont le statut haut niveau, c'est-à-dire qui font partie d'une équipe nationale, qui s'entraînent presque tous les jours, qu'ils soient amateurs ou professionnels, qui pratiquent leur discipline pour le plaisir, car sans plaisir, un bon résultat est impossible. Je pense que tout le monde a sa place. Si vous sortez en vélo, vous voyez des cyclistes qui font souvent partie d'un club, sur un vélo sans doute fait sur mesure, qui ne pèse que quelques kilos, avec un équipement de dernier cri. Mais il y a aussi des gens qui visiblement se promènent, des gens qui ont envie d'apprécier un autre environnement, prendre un bol d'air en famille ou avec des amis. Ça, c'est une activité physique. Et c'est ça dont je vais vous parler.
Superstitions, black cats and voodoo dolls. I feel a premonition that girl's gonna make me fall.
Alors, pourquoi une activité physique? Quelle est la motivation? À chacun son objectif. Ça peut être un moment pour soi, un changement de décor ou simplement le bien-être. Je ne suis pas spécialiste dans la matière, mais il est prouvé que 30 minutes de marche par jour permet de vivre plus longtemps, d'éviter ou d'éloigner les maladies cardiovasculaires, la tension artérielle et même la maladie d'Alzheimer. Il faut en parler à son médecin si on n'est pas sûr, mais l'âge ou « je n'ai pas le temps » ne sont pas des excuses. Tout le monde peut faire une activité physique, en fonction de son tempérament, par exemple, le vélo, la marche, la natation. Pas besoin de trouver quelqu'un du même niveau, disponible en même temps. C'est facile à faire et pas cher. Et, mesdames, ça me peine à le dire, mais je ne vois pas beaucoup de femmes sur la route en vélo le week-end. Par contre, personnellement, je trouve que d'adhérer à un club stimule une régularité pour pratiquer son activité. Alors, pas beaucoup de temps? Imaginons que vous prenez le transport en commun pour aller travailler et que vous ne pouvez pas vous y rendre en vélo. Alors, prenez le bus, tram, ou métro, quelques arrêts plus tard, ou descendez quelques arrêts plus tôt, pour finir à pied. Vous avez un chien? Sortez-le. Au pire, ça peut vous permettre de faire des rencontres, et au mieux, vous vous sentirez mieux dans votre tête. Peut-être pouvez-vous faire quelques courses à pied, ou aller chercher les enfants à l'école. Cherchez comment vous pouvez changer quelques habitudes sans trop perturber votre manque de temps. Il y a une différence entre « je ne veux pas » et « je ne peux pas ». Désolé, mais il n'y a vraiment pas d'excuse. Quel que soit le niveau d'intensité, toute activité physique est bonne à prendre. Si vous n'y avez pas une résolution en 2020, ça y est, c'est tout trouvé. Plus d'activité physique.
Pour bouger, Josie, en période de confinement, eh ben nous vous proposons d'écouter bien fort les chanteuses toulousaines, les Femoustées. C'est parti!
Moi, je nettoie, je nettoie, je nettoie n'importe quoi. Je suis la tornade blanche quand je me retrousse les manches. J'ai de tout du sol au plafond, moi je fais le ménage à fond. Tagara, 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 tagara. Moi, je nettoie, je nettoie, je nettoie n'importe quoi. Je suis la tornade blanche quand je me retrousse les manches. J'ai de tout du sol au plafond, moi je fais le ménage à fond. Tagara, 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 tagara. Tagara, 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 tagara.
Sa pierre au bien balai.
Marmalade. Il semblerait que le mot marmalade vienne du portugais, puisque le mot marmelot en portugais veut dire coin. Il y a aussi un mot latin et un mot grec. Mais bon, assez d'explications érudites, puisqu'aujourd'hui, le mot marmalade désigne n'importe quelle confiture faite avec des agrumes. Et maintenant, deux autres histoires amusantes sur l'origine de la marmalade. Selon la première, l'histoire de la marmalade d'orange commence à Dundee, en Écosse. Vers le XVIIe siècle, un bateau en provenance d'Espagne s'y abrite pour échapper à la tempête. Les marins avaient compris que la cargaison d'orange risquait de s'abîmer lorsqu'un couple d'épiciers achète le tout à bas prix. Bien sûr, ils en vendent, mais ils se rendent vite compte qu'ils ne peuvent pas tout vendre avant que les oranges périssent. Alors, pour éviter le gaspillage, ils font bouillir des oranges avec du zeste et du sucre. Cette confiture connaît le grand succès que nous connaissons encore aujourd'hui. La deuxième histoire de la marmalade serait liée à la reine Marie Stuart. Suite à l'arrivée du Normand Guillaume le Conquérant en 1066, date que tous les Britanniques connaissent, le français était la langue parlée parmi la noblesse et la royauté.
Au XVIe siècle, le cuisinier français de Marie Stuart lui propose une mixture d'orange bouillie avec du sucre lorsqu'elle est malade. « Mame est malade !» il dit aux autres. « Mame est malade !» il dit aux autres. Ce qui donne le mot « marmalade ».
Ne cherche pas à vouloir arrêter le temps. J'aime la beauté dont il te va et dont je suis l'amant. Ne cherche pas à vouloir arrêter le temps. J'aime la beauté dont il te parle.
Dans le cadre de notre émission Génération, nous avions envie de partager avec vous l'extrait d'un article sur le vieillissement des actrices intitulé « Nos vies intimes » par la journaliste Muriel Joudet qui a beaucoup écrit sur le cinéma. La tristesse des visages des actrices américaines, Nicole Kidman, Charlize Theron, Renée Zellweger, pour ne citer que celles que je viens de croiser récemment dans Scandale et July. Difficile de décrire le carnage, pas toujours le même selon les visages. Pommettes hautes et rigides, lèvres empêchées par d'invisibles fils, nez retroussé, figure totalement transformée et assumée comme telle. Les mots me manquent. Mais c'est comme si toute expression naturelle était rappelée à l'ordre. Partout, c'est le même échec à se refuser au temps. On signale son passage en voulant le gommer. Souvent, au premier coup de bistouri, le spectateur salue la discrétion du résultat comme s'il s'agissait d'une performance d'actrice à part entière. C'est bien fait, oui. Plus les années passent, plus cette performance ressemble à un masque boursouflé, à un tombeau pour un visage. Kidman, Adjani, vieillir au cinéma. Accompagner le cinéma de son vieillissement comme tant d'actrices ont pu le faire il y a des décennies, tout ça n'est désormais plus possible pour les femmes, malgré le déni collectif face à des visages humains qui n'en sont plus. Je le dis autrement, nous n'assisterons presque plus au spectacle du vieillissement des femmes dans la fiction populaire. Sans doute le numérique a-t-il accru ce besoin de jeunesse. Je me souviens du visage refait de Michelle Pfeiffer dans Maléfique, tentant et échouant à rejoindre le monde lissé et éthéré de la débauche d'effets numériques qui l'entouraient. Les visages sont astreints à cette nouvelle visibilité. Le numérique n'est pas là pour constater des aspérités, des ridules. Il se repaît de perfection, de surface lisse. L'œil inspecte, ne trouve rien, aucun défaut et s'en réjouit. Ce que la chirurgie n'a pas su gommer, la retouche numérique s'occupe de le faire disparaître. Par exemple dans Elle, de Paul Verhoeven, entre autres.
Si Bette Davis avait été empêchée de vieillir, elle aurait été amputée d'une bonne moitié de sa filmographie. La filmographie d'un acteur, d'une actrice, c'est un récit qui fait passer du temps, qui raconte l'histoire d'un visage, d'un corps et de gestes qui se transforment, vont vers la mort et s'en amusent parfois. Kidman ne raconte plus rien d'elle-même depuis longtemps, car elle n'est plus dans le temps. Pour moi, sa présence signale simplement une absence de Nicole Kidman. À présent, une pause musicale et justement en hommage à Bette Davis et pour montrer qu'elle est toujours vivante dans nos mémoires. Une chanson de Kim Carnes des années 80 qui s'appelle Bette Davis Eyes, les yeux de Bette Davis.
Her hair is hollow gold, her lips sweet surprise. Her hands are never cold. She's got Bette Davis eyes. She'll turn the music on you. You won't have to think twice. She's pure as New York snow. She got Bette Davis eyes. And she'll tease you. She'll unease you. All the better just.
De la
musique chronique
Génération,
nous vous racontons
la petite histoire
cachée derrière
une grande chanson. La dernière fois, je vous ai parlé de musiciens toulousains connus. Comme promis, cette fois, je vous parle de musiciens toulousains un peu moins connus que ceux de la dernière émission, mais qui sont de qualité et méritent autant d'attention. Aussi, je suis désolée d'avoir mis ces musiciens dans la rubrique « moins connus » s'ils ont eu subitement un départ fulgurant sur la scène nationale. Par contre, s'il n'est pas toujours facile de trouver des informations les concernant, une chose est certaine, leurs concerts peuvent offrir tout autre chose au public, par exemple une certaine intimité. Cette ville est pleine à craquer de musiciens talentueux et c'est difficile d'en mettre quelques-uns en avant. Mais on va essayer. Tout d'abord, Tango Tape, un groupe originaire de Toulouse qui est connu pour leurs prestations de dub electro, soul jazz, trip-hop, R&B, new jazz, electropop, acid jazz. La liste est trop longue pour leur donner une étiquette musicale. Aujourd'hui, très influencé par la soul, encore une fois, la qualité de ces musiciens est époustouflante et la belle voix de la chanteuse Nell Mess est à couper le souffle. Une minute de Lazy.
You guys go too fast. You dump, you dig, you search, you find. Being unemployed, free my mind to sleep and sing and drink at last. You ask me something and I play my card. If you want it done right, you better do it yourself. I try but not try, cause it looks too hard. And every job I've got sends me straight to hell.
Matteo Langlois, ce jeune Toulousain, 25-28 ans, qui commence à prendre de l'importance sur la scène musicale. C'est impossible de lui donner un style de musique. Ses chansons font souvent référence à ses grands maîtres Claude Nougaro et Charles-Louis Couture. C'est un touche-à-tout. Il met sa poésie sur musique. Il est chanteur, auteur, compositeur et musicien. Je cite « Les mots sont le pont qui me permet d'aller où bon me semble ». Je vous invite à voyager à bord mon vaisseau spécial, au fil des chansons qui ponctuent simples expériences et grandes transformations. Bienvenue, ici rien n'est noir et blanc, hormis les touches du piano. Venez, je suis sûre qu'ensemble nous écrirons un beau poème. » Fin de citation. Quelle invitation! Je vous invite donc à arrêter ce que vous faites et de savourer chaque son de sa chanson, les fautes d'orthographe.
Si c'était comme un livre, on pourrait ouvrir et fermer l'histoire un peu quand on le veut. Et quand vient le soir, quand s'endorment les amoureux, on poserait son bouquin à côté de son béguin. À côté, c'est bien mieux qu'on fasse vivre. Si c'était comme un livre, on pourrait sauter les chapitres, les passages trop douloureux. Mais la vie, la vraie, écrit des mots que l'on n'efface pas. Et non, mais pas de marquer tous les rêves brisés. Et puis tous les faux pas que l'on a déjà fait. Mais tout ça, c'est pas grave. Les fautes d'orthographe s'inscrivent toujours dans les plus beaux des paragraphes quand on relit son livre.
Je triche un peu, car Corentin Grelier n'est pas né à Toulouse. Il s'y installe il y a presque 10 ans. Il a joué avec le groupe Camus, mais aujourd'hui il chante en solo. Il chante accompagné de sa guitare en toute simplicité. Il chante sa poésie. Son but est de raconter dans ses chansons des petites histoires, des petites tendresses, des petites lumières. Il chante la vie, l'amour, la joie et la tristesse. Ses chansons sont pleines d'émotions et de passion. Frissons garantis. Où est-ce que ça s'en va? Une minute.
Où est-ce que ça s'en va? L'amour, quand ça s'en va, est-ce que ça s'en va pour toujours? Quand ça s'en va, l'amour, ça s'en va où? Dans ces cimetières marins, où l'on sait les départs, où de vieilles dames en noir arpentent leur chagrin, quelques fleurs à la main. Où est-ce que ça s'en va? L'amour, quand ça s'en va, est-ce que ça s'en va pour toujours? Quand ça s'en va, l'amour, ça s'en va où? Sous cette robe fleurie et le sourire nouveau, qui te dit que t'es beau aussi? Qui te dit oui? Porte-moi dans la nuit, porte-moi sur ton dos jusqu'au bout de l'envie.
Comment parler de la musique toulousaine sans parler d'un spectacle de Commando à Troyes? Le ton est donné d'emblée avec une version décalée de Paris Mai, François Hayé au chant. Un festival instrumental auquel se joint volontiers le public emporté par cette énergie jubilatoire. Olivier Capel est aussi habile aux baguettes qu'aux effets vocaux et samplés. Tout est occasion de cadence. On respire à peine entre les chansons. Ça swing méchamment quand s'enchaîne l'amour sorcier, sing, sing, vie, violence. Les mots teintent, les voix du trio s'échangent et se répondent et les instruments jubilent. Comment ne pas se laisser emporter par ce vent de folie quand ils abordent Bidonville? François Dorambus, seul à la guitare, laisse un espace à la douceur avec la maîtresse et ce chien qui flaire la menace de l'amant. Je ne saurais trop conseiller aux amoureux de l'art nougaresque d'aller écouter ce Commando à Troyes pour se réjouir de ses reprises, de ses récréations nourries de l'énergie musicale, du souffle vital de Claude Nougaro. Je vous laisse écouter en entier cette fois-ci à Toulouse de Commando à Troyes.
Je prends le métro et je suis dans tes veines artères qui me conduisent du nord au sud, d'est en ouest et bientôt dans toutes les communes qui viennent l'effleurer. Colomiers, Balma, Tournefeuille, Foncegrive, Ramonville, Blagnac, Cugnot, L'Union et puis Plaisance du Toche.
À qui les prennent mon pays?
À Toulouse, à Toulouse, à qui les prennent mon pays? À Toulouse, à Toulouse, à qui les prennent mon pays?
Il y a la place du Capitole, mille fois pavée, 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 dépavée, dépavée, repavée. Et la place Saint-Georges, où de jeunes iPadés viennent prendre thé. On peut traverser le pont neuf, même par temps de canicule, fumer sur la prairie des filtres, sur les berges, se rouler un patin, prendre le frais aux Jacobins, marcher sur une merde de chien, et contempler une crotte rose aux abattoirs.
À qui les prennent mon pays? À Toulouse, à qui les prennent mon pays? À Toulouse, à qui les prennent mon pays? À Toulouse, à qui les prennent mon pays?
Les violons du Capitole, ta voix, la brique rouge sont entrés dans mes veines. Tout petit garçon, une montée d'hormones, entrée par effraction, un parfum de Garonne, sanguine transfusion. Je t'écoutais en boucle malgré la fin tragique. Blue Rondo à la turque sur le vieux tourne-disque. Je voulais le magot, les balas et Suzy bien au chaud dans la place. Toute la vie, toute la vie.
À Toulouse, à Toulouse, à qui les prennent mon pays? À Toulouse, à Toulouse, à qui les prennent mon pays?
On se régalerait quand tous les bobos viennent à vélo. Y'a le tramway, c'est écolo. Mais ce qui est le métro, c'est pas cadeau. L'ami Jojo musicalise, non pas de presse, pas le vocalise. On peut se poser à l'adora, te faire dorer sans des cerises. Pour l'apéro, c'est au grand rond que se joue la vie, la comédie. Hip-hop, t'as le métronome, c'est la place du Cap qui s'étoile. Non, rien de neuf à la reinerie, mais des ruches en périphérie. Matabio qui s'affaire, qui est beau mon quartier d'affaires.
À Toulouse, à Toulouse, à qui les prennent mon pays? À Toulouse, à Toulouse. À qui
qu'il est vraiment païs.
L'Occitanie était la reine lorsque Raymond était en vie. Mais Raymond, ça fait moment qu'il est parti. Au début du siècle, l'Occitanie était bannie pour que tout le monde parle français, même les paysans les plus reculés. Cela donnait ce que l'on entend, peu de personnes parlent occitan, sauf quelques passionnés qui se décarcassent pour faire naître une langue d'or dans le cœur des enfants, comme d'autres essaient de réintroduire les ours dans les Pyrénées. C'est pas facile, c'est pas gagné.
À Toulouse, à qui est vraiment païs. 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 Qu'il est prêt, mon pays.
J'aimerais vous parler d'un concert qui a eu lieu le 5 mars. Mon but n'est pas de faire de la publicité, mais surtout de vous parler d'un concert sublime organisé pour la bonne cause, de faire avancer la recherche toulousaine contre le cancer et plus particulièrement pour la Fondation Toulouse Cancer Santé. Le concert était organisé surtout par les Rotary Clubs de la région toulousaine, mais avec, entre autres, la participation financière de la mairie de Toulouse, d'autres mairies et organisations politiques de la région, en plus une trentaine d'entreprises, sans oublier la participation individuelle de gens comme moi. Pour ceux et celles qui connaissent, et aussi ceux et celles qui ne connaissent pas, la Halle aux Grains est un lieu magique. À mon avis, tous les ingrédients étaient réunis pour une soirée réussie. Après quelques speeches, place à la musique. Ils ont fait venir le chef d'orchestre allemand Cornelius Meister, le soliste violoniste tchèque Josef Spacek et l'Orchestre national du Capitole de Toulouse, qui ont joué pour nous l'ouverture Tannhausen de Richard Wagner, le concerto numéro 1 pour violon de Max Bruch, et après l'entracte, nous avons entendu la 7e symphonie de Ludwig van Beethoven. Franchement, c'était une expérience hors pair et j'étais sous le choc pendant quelques jours. Tout le monde y a gagné puisque le concert a eu lieu pour la bonne cause et il était apprécié de tous. La qualité de musique était excellente. Nous étions plus de 1800 personnes à avoir bravé la météo et le Covid-19 puisque c'était possible à l'époque. Et nous avons passé une soirée sublime puisque 100 000 euros ont été versés à la Fondation. Oui, 100 000 euros, c'est énorme et c'est du sérieux. Y aura-t-il d'autres concerts? Et moi je réponds, pas cette année en tout cas. Je pense que ce type de concert est organisé tous les 2 ans. Il ne faudrait pas rater le prochain. Alors, si vous êtes debout ou occupé, je vous invite à vous asseoir pour écouter un extrait de mon morceau préféré du concerto numéro 1 pour violon de Max Bruch. Cette fois-ci, joué par Yud Emmanuel. Laissez-vous transporter ailleurs.
Projet Génération, c'est avant tout un spectacle, puis une émission radio, et toujours un rendez-vous artistique et d'expression réalisé dans le cadre de l'association Artis. Il est financé par le Conseil départemental de Haute-Garonne et la Conférence des financeurs, en partenariat avec Radio de la Save, bien sûr. Nous invitons nos 60 ans et plus à rejoindre l'aventure de Génération.